Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Security Analysis, écrit par Benjamin Graham avec David L. Dodd et publié pour la première fois en 1934, est un traité d'analyse financière et d'investissement. La sixième édition française, fondée sur la version américaine de 1940 et enrichie de commentaires contemporains, restitue un texte dense destiné à examiner les obligations, les actions et les situations de marché inhabituelles. Son objectif n'est pas de livrer une recette de sélection boursière rapide, il établit plutôt une discipline intellectuelle pour distinguer investissement et spéculation, analyser les informations comptables disponibles et estimer une valeur suffisamment robuste pour guider une décision. Graham et Dodd partent d'une idée simple mais exigeante, le cours de bourse peut s'écarter durablement de la réalité économique d'une entreprise ou de la protection offerte à un créancier. L'analyste doit donc raisonner en termes de faits vérifiables, de capacités bénéficiaires, de structures financières et de marges de sûreté. L'ouvrage constitue ainsi le socle historique de l'investissement dans la valeur et de l'analyse fondamentale moderne. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, la valeur intrinsèque comme estimation raisonnée plutôt que chiffre exact. Le livre refuse l'illusion selon laquelle l'analyste pourrait déterminer avec précision la valeur véritable de chaque titre. La valeur intrinsèque est une estimation fondée sur les actifs, les bénéfices, les dividendes, la situation concurrentielle et la solidité financière. Son utilité pratique est de permettre un jugement de suffisance. Une obligation est-elle convenablement couverte par les ressources de l'émetteur ? Ou une action est-elle vendue à un prix assez inférieur à ce que l'entreprise peut raisonnablement valoir ? Cette position distingue l'analyse de Graham et Dodd de la recherche d'une prévision parfaite. Les données financières sont imparfaites, les bénéfices futurs sont incertains et les conditions économiques changent. Une méthode sérieuse doit donc s'appuyer sur des fourchettes, sur des comparaisons prudentes et sur l'examen des résultats passés plutôt que sur une extrapolation mécanique d'une croissance récente. L'ouvrage accorde une place importante à la capacité bénéficiaire normale, c'est-à-dire à ce qu'une entreprise peut gagner à travers un cycle plus qu'au profit exceptionnel d'une seule année. Cette approche oblige aussi à séparer les faits publiés des hypothèses de l'analyste. Elle rend l'évaluation plus humble, mais également plus utile. Il suffit souvent de reconnaître une sous-évaluation ou une surévaluation manifeste pour éviter une mauvaise décision. Deuxièmement, la marge de sûreté transforme l'incertitude en règle de protection. La marge de sûreté est le principe central de Security Analysis. Elle désigne l'écart favorable entre le prix payé et une estimation prudente de la valeur ou de la capacité de remboursement d'un titre. Cet écart ne vise pas à garantir un gain, ce que les auteurs ne promettent jamais. Il sert à absorber les erreurs de calcul, la baisse temporaire des résultats, les aléas économiques et les réactions excessives du marché. Plus les hypothèses employées sont fragiles, plus la marge exigée doit être élevée. Pour une obligation, la protection peut se mesurer notamment par la couverture des intérêts, la valeur des actifs et la priorité juridique du créancier. Pour une action, elle repose davantage sur la qualité et la stabilité des bénéfices, le bilan et le prix, comparé à une valeur estimée avec prudence. Le raisonnement inverse, celui de la spéculation, au lieu d'acheter parce qu'un actif paraît populaire ou parce que son cours monte, l'investisseur cherche une décote qui limite les conséquences d'un scénario moins favorable. La marge de sûreté impose donc une discipline de prix. Une excellente entreprise peut représenter un placement médiocre si elle est achetée sans protection, tandis qu'une entreprise ordinaire peut devenir intéressante si son prix reflète déjà largement ses difficultés. Cette asymétrie entre risque de perte et potentiel de rendement structure toute la méthode. Troisièmement, l'examen séparé des obligations et des actions impose des critères adaptés. Graham et Dodd insistent sur le fait qu'une même grille ne peut pas être appliquée indistinctement à tous les titres. Le détenteur d'une obligation attend avant tout le paiement contractuel des intérêts et le remboursement du capital. Son analyse doit donc privilégier la couverture des charges fixes, la régularité des profits, la qualité des actifs, le rang de la dette et la résistance de l'émetteur en période défavorable. La hausse éventuelle de la valeur de l'entreprise est secondaire par rapport à la sécurité de la créance. L'actionnaire ordinaire, à l'inverse, supporte les risques résiduels et participe à la prospérité future de l'entreprise. L'analyse des actions doit alors considérer le bénéfice, les dividendes, la structure du capital, la valeur des actifs et les perspectives, sans confondre possibilité de croissance et certitude. Cette distinction paraît élémentaire, mais elle corrige une erreur fréquente, traiter une obligation risquée comme si son rendement élevé compensait automatiquement la faiblesse de sa protection, ou payer pour une action un prix qui suppose déjà une croissance incertaine. Le livre analyse également les titres hybrides et les situations où les droits juridiques ou les structures de capital compliquent l'évaluation. Son apport durable est de rappeler que le rendement affiché n'a de sens qu'une fois rapporté au droit réel du porteur et au risque qu'il assume. Quatrièmement, la lecture critique des états financiers prime sur les récits de marché. Security Analysis fonde la décision sur l'étude détaillée des comptes et des documents financiers. Les auteurs examinent la signification économique des bénéfices publiés, la composition des actifs, la nature des dettes, les charges fixes et les variations qui peuvent fausser l'image d'une société. Un bénéfice comptable ne constitue pas à lui seul une preuve de valeur, il faut apprécier sa récurrence, son lien avec l'activité normale et les éléments exceptionnels qui l'ont soutenu. De même, une valeur d'actif inscrite au bilan doit être interrogée selon sa liquidité, sa réalisabilité et les droits prioritaires qui peuvent la grever. Cette attention aux détails comptables découle d'un principe méthodologique. L'analyste doit préférer les informations contrôlables aux promesses séduisantes. Les perspectives de croissance ont leur place, mais elles ne doivent pas annuler l'examen de la structure financière présente. Le livre montre ainsi pourquoi les comparaisons entre entreprises exigent des ajustements, notamment lorsque leur politique comptable, leur endettement ou leur capitalisation diffèrent. Cette démarche peut sembler laborieuse face aux outils modernes et aux flux d'informations instantanées, elle reste néanmoins pertinente, car la rapidité du marché ne remplace pas la compréhension de ce qui produit réellement les flux de trésorerie et protège les investisseurs. L'analyse fondamentale devient ici une enquête sur la qualité économique des chiffres et non une simple collecte de ratios. En dernier lieu, la distinction entre investissement et spéculation encadre portefeuille et comportement. Le livre définit l'investissement par une analyse approfondie, la sécurité du principal et un rendement satisfaisant. Toute opération qui ne satisfait pas ces conditions relève de la spéculation. Cette distinction ne condamne pas moralement la spéculation, mais elle exige qu'elle soit reconnue comme telle. Un opérateur ne doit pas attribuer à une anticipation de cours le degré de sécurité qu'offrirait une analyse rigoureuse des fondamentaux. Cette clarté est essentielle lorsque l'enthousiasme collectif pousse les prix au-delà de ce que les données justifient, ou lorsque la peur crée des décotes excessives. Graham et Dodd accordent aussi de l'importance à la diversification. Même une analyse prudente peut être erronée ou contrariée par un événement imprévu. Répartir les positions réduit donc la dépendance envers un jugement unique. La gestion de portefeuille ne se limite pas à accumuler des titres apparemment bon marché. Elle demande d'évaluer la qualité des protections, les corrélations économiques possibles et la part du capital exposée à des situations incertaines. Les commentaires ajoutés dans la 6e édition soulignent la longévité de cette discipline dans des marchés pourtant très différents de ceux des années 1930. L'idée directrice demeure : les fluctuations de cours créent des occasions, mais elles ne doivent pas dicter l'analyse. Le comportement rationnel commence par la définition explicite du risque accepté et du type de décision réellement pris. En conclusion, Security Analysis s'adresse d'abord aux investisseurs, analystes financiers, étudiants en finance et professionnels de la gestion, qui souhaitent comprendre les fondements exigeants de l'évaluation des titres. Il conviendra moins aux lecteurs qui cherchent une introduction légère ou une liste de ratios à appliquer sans contexte sa langue. Ses exemples historiques et son niveau de détail demandent du temps. Cet effort offre cependant un bénéfice intellectuel rare. Le lecteur apprend à formuler une estimation conditionnelle, à examiner la qualité des bénéfices et du bilan, à distinguer les droits du créancier de ceux de l'actionnaire, puis à exiger un prix laissant place à l'erreur. Ces réflexes peuvent améliorer l'analyse directe d'actions et d'obligations, mais aussi la lecture critique des recommandations, de présentations d'entreprises et de récits boursiers dominants. Par rapport à de nombreux ouvrages modernes d'investissement, le livre se distingue par son ambition méthodologique. Il ne repose ni sur la prédiction des mouvements de marché, ni sur l'admiration de quelques entreprises exceptionnelles. Il explique pourquoi la protection contre l'erreur doit précéder l'espoir de performance. Sa force réside également dans l'articulation entre comptabilité, droit des titres, structure du capital et comportement de marché. Les techniques exactes doivent être adaptées aux normes et aux instruments actuels. Mais le cadre de raisonnement conserve sa portée. La 6e édition ajoute des éclairages contemporains sans dissoudre la rigueur du texte original. Elle reste une référence pour apprendre à penser comme un analyste plutôt qu'à suivre un cours. Si vous souhaitez soutenir Benjamin Graham, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.